Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À ce stade de notre semaine spéciale consacrée au dysfonctionnement des relais d'opinion, il apparaît que la question de la représentativité est centrale. Les médias, les partis politiques, les élites intellectuelles et économiques, les syndicats et même les associations peinent aujourd'hui à refléter l'ensemble de la société, de sa diversité, une déconnexion sociologique qui se traduit par une incompréhension des préoccupations d'une partie des Français. Pour renouer le contact, pour revenir au réel, peut-être faut-il passer par la fiction et mieux encore par la littérature. Après tout, si l'on connaît si bien la société du 19e siècle, c'est grâce aux grands romans naturalistes. Ceux qui sont publiés aujourd'hui permettent-ils de documenter notre époque, de rendre compte de cette France qu'on dit invisible, celle des marges, de la périphérie ? La colère qui se traduit dans les urnes est-elle perceptible dans la production littéraire du moment ? Et la littérature sait-elle parler aux électeurs et des électeurs du Front National ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à quatre invités, parmi lesquels deux écrivains, à commencer par Thierry Bastingel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur d'une douzaine de romans. Le dernier publié, c'est La vie prolongée d'Arthur Rimbaud chez Fayard, qui est votre éditeur, si ce n'est exclusif, en tout cas principal. Chez Fayard, vous avez publié par ailleurs Il déserte. Je ne vais pas tous les citer, mais je cite celui-là parce qu'en 2012, vous avez reçu pour ce roman le prix Eugène David du roman populiste. Et c'est un prix qui entre en résonance justement avec la discussion que nous allons avoir ce soir. On parlera sans doute davantage de Faux Nègres, roman que vous avez publié en 2014, qui raconte comment un apprenti journaliste, enfin c'est pas un journaliste professionnel, est envoyé dans un village de l'Est de la France qui a pour particularité d'avoir été celui qui a le plus voté pour Marine Le Pen à la dernière présidentielle. C'est un village qui existe en vrai, même s'il n'est pas cité dans votre roman. Pour discuter avec vous, Nicolas Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Aux animaux, la guerre, c'est votre premier roman publié chez Actes Sud en 2014. C'est un roman qui vous a valu plusieurs prix. Roman noir qui se situe dans les Vosges sur fond de désindustrialisation. Raconter l'histoire d'une usine qui s'éteint un petit feu, des personnages et de la population qui sont autour et qui déclinent en même temps que cette usine. Troisième invité, Aurélie Adler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en littérature française des 20e et 21e siècles à l'université de Picardie-Jules Verne, c'est à Amiens. Vous avez publié, enfin c'est sous votre direction en tout cas, Écrire le travail au 21e siècle, quelles implications politiques, c'est aux presses de la Sorbonne Nouvelle et chez le même éditeur, Éclat de vie muette. Vous êtes interrogé et intéressé surtout à quelques écrivains qui, ont pour matière première, c'est laissé pour compte, ces gens de la marge. Il y a par exemple Annie Arnaud ou encore Pierre Michon. Et puis quatrième invité, lui est en duplex des studios de Radio France à Bruxelles, il s'agit de Michel Dufrane. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes scénariste de bande dessinée, chroniqueur culturel, notamment pour la RTBF, et spécialiste en particulier de polar, de roman noir, notamment le roman noir américain. Alors si vous le voulez bien, mais vous n'avez pas le choix d'ailleurs les uns et les autres, je vais commencer par planter un petit peu le décor, celui qui est décrit, notamment par Thierry Bastingel, dans Faux Nègres. Le premier lotissement a vu débarquer quelques familles de la ville. C'était au tout début des années 70. Depuis longtemps, les villages aux alentours avaient ouvert leur terrain à ceux qui revenaient déjà du mirage des appartements neufs dans les immeubles de béton. À l'époque, nous écoutions les autres élus du canton se réjouir de la manne apportée par ces nouveaux occupants. Bien sûr, ça faisait des frais. Il fallait apporter l'électricité, l'assainissement, goudronner des routes. Mais la population en bénéficiait. Avec cette mode du retour à la campagne, nous avions fondé de grands espoirs pour renouveler la population et retrouver la prospérité des environs. Nous avions pensé que, avec ces jeunes parents, la vie du village deviendrait plus animée. Établissement scolaire, commerce, peut-être même une banque. En réalité, il était déjà trop tard. La promesse de nouvelles classes avait vite tourné court. De même, aucun commerce ne s'était installé. La consommation battait son plein. Les premières zones commerciales s'étendaient à la périphérie. On y passait le soir avant de regagner le village. Alors, c'est un extrait que j'ai lu en effaçant quelques phrases intermédiaires. Thierry Bastingel, j'espère que vous me pardonnerez. La première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que en écrivant ce roman, vous aviez notamment, entre autres, la volonté de parler de cette fameuse France périphérique, alors dont parle notamment le géographe Christophe Guilluy, de la montrer en tout cas peut-être davantage qu'on ne la montre, ou de la montrer peut-être différemment de la façon dont on la montre par exemple au journal télévisé.
Bah effectivement, le thème du livre part d'un petit village, donc il fallait que j'explicite déjà comment ces zones de petits villages se sont constituées. Est-ce qu'il y a eu effectivement des mouvements de retour à la terre qui après se sont, comme vous l'avez indiqué, se sont vite étiolés. Donc j'ai eu cette volonté de le dresser à une sorte de panorama d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Et aussi, j'ai essayé de l'ancrer aussi dans une histoire qui remonte assez loin, qui remonte à partir jusqu'au 19e siècle, puisque la plupart de ces villages, historiquement, se sont constitués au 19e siècle, avec les mairies, écoles. Enfin voilà, c'était typiquement la France de Jules Ferry à l'époque, qui est restée pendant très longtemps ce socle, en fait, ce socle d'aménagement du territoire avec des villages comme ça, qui sans aucun lien les uns avec les autres.
Sauf qu'avec ce village que vous décrivez, Thierry Bestingel, donc on sent bien qu'il y a eu des espoirs à un moment donné d'aménagement, et que c'est une zone de la France qui est en lente mais constante décomposition.
Oui, bah oui, clairement, c'est vrai que il y a évidemment les entreprises n'investissent pas dans ces petites zones. Il va y avoir des artisans, des artisanats, mais de l'artisanat ou des très petites entreprises. Mais en réalité, il y a peu d'emplois, et donc ce sont souvent des zones où les loyers sont très faibles, mais qui drainent aussi une population qui a un pouvoir d'achat très très faible aussi.
Alors ce village, il existe en vrai, c'est Brachet en Haute-Marne, même si je le disais, oui. Il n'est jamais nommé. On est encore dans l'est de la France avec votre roman noir. On n'a pas fait exprès Nicolas Mathieu, mais il se trouve qu'on est beaucoup dans le nord-est de la France, hein, si Michel Dufresne m'autorise à y inclure aussi la Belgique. Mais est-ce que là aussi votre intention, c'était voilà de montrer une France périphérique, une France délaissée pour compte?
Au départ, moi, j'ai pas d'intention abstraite. Je me suis mis à écrire pour raconter ce que je connaissais, pour parler des gens avec qui j'avais grandi, les lieux que je connaissais, et dont on parle pas tellement. En tout cas, à ce moment-là, on n'en parlait pas beaucoup. Et puis, après, en intellectualisant ce que j'avais fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais parlé de la France périphérique, comme d'autres le font. Je pense à Bouis ou dans le polar à Bouis ou à Mainville, qui font des choses sur la ruralité ou voilà, la France des lotissements, ce genre de choses. Et effectivement, le roman noir, moi c'est la tradition dans laquelle je m'inscris, il a une vocation depuis le début, depuis Hamet, c'est d'écrire les bas-fonds, là où ça se passe mal. Les lieux d'ambiguïté morale et les lieux des moments de crise. S'il y a bien un lieu où la crise sévit aujourd'hui, c'est cette France périphérique. Moi, le terme me convient parfaitement. Je trouve qu'il est absolument synthétique et parfait pour décrire cette France-là.
Aurélie Adler, Nicolas Mathieu nous a dit voilà, c'est une France dont on parle peu. Alors peut-être à l'exception du roman noir, justement. Est-ce que vous partagez ce constat dans la littérature qui n'est pas la littérature noire? Ces zones-là sont peu fréquentées par les écrivains aujourd'hui?
Elles commencent à l'être de plus en plus. Effectivement, Thierry Bestingel fait partie donc de ces écrivains qui documentent cette France invisible, qu'on dit invisible. On peut penser déjà en amont à François Bon, hein, aussi, quand même, avec Déhoux notamment, où il s'intéressait là aussi à l'Est et des usines qui ferment. À Niernaud, bien sûr, même si là, le cadre est légèrement différent, puisqu'elle s'intéressait à Lillebonne et donc à ses parents. Donc là, on remonte plus du côté des années 50-60. Donc oui, il y a évidemment une littérature qui s'intéresse à ces campagnes un peu délaissées, mais elle, voilà, ça émerge plus que c'est dominant, je dirais, dans la littérature de l'extrême contemporain.
Ouais, on pourrait dire, pour paraphraser Audiard, que ça existe, mais que ce n'est pas forcément la majorité de l'espèce. Michel Dufresne, vous vous intéressez donc en particulier au polar et au polar américain. Est-ce que, comme Nicolas Mathieu, vous diriez aussi que c'est dans cette catégorie littéraire-là que se fait peut-être la meilleure documentation de ce qu'est aujourd'hui l'Amérique? On fait évidemment beaucoup de parallèles depuis l'élection de Donald Trump avec ce qui pourrait se passer en France avec une hypothétique élection de Marine Le Pen. Le roman noir, c'est vraiment ce qui permet peut-être de comprendre les ressorts qui ont permis à Donald Trump d'être élu président des États-Unis.
Mais j'en suis absolument convaincu, malheureusement pas qu'aux États-Unis, hein, parce que si on va vers la littérature des pays de l'Est, on a à peu près les mêmes phénomènes. Je pense que l'un de vos invités citait Benoît Mainville. Son roman, La série noire, s'appelle Rural Noir. Il y a tout un courant aujourd'hui dans la littérature américaine qui est identifié comme le Rural Noir, qui sont ces auteurs auxquels on avait au final assez peu accès parce que le filtre des éditeurs français et belges dans la traduction opérait de façon assez majoritaire pour favoriser quand même les écrivains des villes, des grandes villes, hein, New York, Los Angeles, San Francisco et autres. Mais qui, dans leurs propos, nous parlent de la Rust Belt, Bible Belt, et ainsi de suite, et nous parlent d'une petite Amérique blanche dans laquelle un tiers de mes amis travaille à la mine, un tiers de mes amis souffre chez Walmart, et un tiers de mes amis n'ont qu'une chose à faire, c'est picoler le samedi et se mettre sur la gueule. Donc oui, c'est omniprésent, et ça commence à arriver chez nous, entre autres, de nouveau, à travers des collections noires, mais pas que, hein. Je pense que Terre d'Amérique, chez Albin Michel, fait un excellent travail avec des Willy Vlotin, par exemple, qui sont traduits. Chez Belfond, il y a eu le Yaak Vale Montana d'Anderson Smith à cette rentrée littéraire, qui sont des livres qui parlent de ça. Mais plus que ça, c'est que lorsque vous discutez avec les auteurs, 6 mois avant l'élection de Trump, je ne vais pas dire que ça semblait presque évident, malheureusement, mais ils n'étaient franchement pas pro-Hillary Clinton, alors qu'on pourrait les estampiller, leur coller une étiquette d'auteurs plutôt sociaux, de gauche, ils sont assistants sociaux dans la vie, ce genre de choses. Je pense à un auteur comme Larry Foundation à Los Angeles, qui disent ben, à partir du moment où Hillary Clinton s'associe à Beyoncé, ben, c'est mort pour toute une partie de gens. Et c'est vrai que nous, on voit ça, mais on n'entend pas parler des chanteurs de country, des quarterbacks, des joueurs de baseball qui, au contraire, soutenaient un Donald Trump, et qui sont des personnages qu'on retrouve dans cette littérature.
Peut-être qu'on a un phénomène identique, vous allez me le dire, dans la littérature aujourd'hui en France, avec des auteurs qui sont des auteurs particulièrement visibles, mais qui ne sont pas forcément ceux qui seraient le plus en contact avec cette société, qui est cette société de la France périphérique, pour reprendre à nouveau ce terme, Nicolas Mathieu.
En tout cas, nous, les gens qui écrivons du noir, ce noir-là, on a été très en profondeur influencés par ces Américains-là. Depuis Harry Cruse jusqu'à Donald Ray Pollock, en passant par des gens comme Whitmer, il y a un terme hein, pour définir ça, les white trash. Ces gens qui sont allés décrire les petites villes américaines où les mines avaient fermé, les usines aussi, le boulot était parti loin là-bas. Ces gens qui sont l'objet d'un mépris mais universel et qui sont dans une pulsion un peu suicidaire, qui sont prêts à tout pour renverser la table. Aujourd'hui, la démographie de ces gens-là, la durée de vie diminue. Ils sont prêts à tout. Cette pulsion-là, elle est présente. Il y a le corps social américain, je pense aussi le corps social français, il a infusé d'une violence qui est extrême, qui explose par moments et qui devient particulièrement criante quand il y a des élections. Alors nous, voilà, on essaye de témoigner de ça.
Quand vous parlez d'un mépris universel, c'est un mépris qui concerne aussi le milieu de la littérature, d'après vous, Nicolas Mathieu?
Non. Je ne vais pas aller larmoyer sur mon sort. Non, non. Mais je veux dire que
Non, je ne parlais pas de larmoyer sur votre sort, mais je veux dire le traitement qui peut être aussi celui de la littérature par rapport à ces personnages. Il peut y avoir une production de romans où on présente, par exemple, ces laissés pour compte. De manière qui peut-être être perçue par ceux qui sont concernés comme caricaturale. En tout cas, est-ce que c'est un souci de ne pas verser dans la caricature, dans un militantisme qui serait peut-être un peu outrancier, qui passerait à côté de son sujet, Thierry Bastingel?
Bah clairement, c'est vrai que moi, ce qui me paraît important, c'est il faut pas stigmatiser, bien entendu, le petit blanc qui habite dans la voilà au fin fond d'une province. Ça me paraît déjà évident. Alors donc, ce qui se passe effectivement aux États-Unis est beaucoup moins probablement perceptible chez nous parce qu'il y a aussi toute une politique sociale qui porte ses fruits et puis qui tempère, qui permet de tempérer aussi. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas. Enfin, moi, je ne le perçois pas comme ça. Et je trouve qu'il y a une. En même temps, quand je dis qu'il faut pas stigmatiser cette partie de la population qui a un faible revenu et qui a surtout une faible participation à la vie publique, mais à la vie médiatique aussi. Il faut pas oublier aussi que là, le thème de soir, c'est quand même les électeurs du Front National, et que les électeurs du Front National sont aussi sur l'ensemble de toutes les catégories sociales, et y compris celles qu'on s'est aperçues assez récemment, les catégories sociales supérieures.
Oui, bien sûr. C'est pas seulement pas seulement la France des laissés pour compte qui vote pour le FN.
Mais quand vous dites, c'est quand même le premier parti ouvrier de France après l'abstention. ça compte quand même. C'est vrai que ça marche partout, mais surtout là.
En tout cas, quand vous dites, Thierry Bestingel, qu'il ne faut pas les stigmatiser, est-ce que ça pose quand même la question de comment on incarne ces personnages qui sont a priori ceux qui votent pour le FN, quand donc votre reporter se retrouve dans ce village avec comme cahier des charges, savoir pourquoi ici on vote autant Front National, c'est à 72%, en l'occurrence à la dernière présidentielle, c'est forcément que dans les gens qui rencontrent, il y en a qui ont voté FN, il y en a qui ont des propos qui sont ouvertement anti-immigrés. Est-ce que aussi vous vous posez la question de l'incarnation, de dire voilà, ce personnage-là, je dois le traiter avec le même respect que d'autres personnages, même si les idées qu'il défend peuvent être totalement étrangères aux miennes?
Alors forcément, parce que, alors là effectivement c'est un épiphénomène, 72% pour un tout petit village de 50 habitants, mais il faut pas oublier qu'aux dernières élections régionales, par exemple le parti de Marine Le Pen a fait dans mon département 40%. Ça veut dire que sur mes 10 voisins, il y en a quand même 4 qui votent Front National. Donc des gens avec qui je discute matin, midi et soir. Donc comment et avec qui je partage forcément quelques idées, quelques façons de penser. Donc d'où la difficulté de justement de ne pas les stigmatiser. En même temps, même si je ne partage pas ces idées-là, je suis aussi capable de les comprendre aussi. Donc il y a forcément une empathie qui se fait.
Il y a de l'empathie, il y a du militantisme, il y a un peu des deux aujourd'hui dans la littérature qui essaie de traiter de ces questions, Aurélie Adler.
L'empathie, oui, bien sûr. Je pense qu'une des erreurs serait de justement renvoyer ces électeurs du Front National à un autre monstrueux qu'il ne faudrait surtout pas essayer de comprendre. Donc la littérature, elle essaye quand même de comprendre les affects et donc de se mettre à la place d'eux. Donc elle fait parler ces gens-là.
Elle le fait depuis le début. Le Front National, c'est le début des années 80, disons que ça émerge. Ou est-ce que là aussi, vous qui avez une vision assez longue de la production littéraire, parce que là aussi, vous voyez une forme d'évolution, en tout cas.
Il me semble que, justement, là, moi, je vois une évolution dans le sens où les laissés pour compte, qu'on prenne Michon, ou qu'on prenne François Bon ou Annie Ernaux, ils ne sont pas politiquement très marqués. Alors que si on se tourne du côté de Thierry Bestingel, ou du côté de Nicolas Mathieu, ou du côté de ce que font aujourd'hui, je ne sais pas moi, Didier Deninx ou autres, là, on a des figures d'électeurs potentiels, donc effectivement, qui incarnent une idéologie, qui sont... Voilà, donc il y a ce contexte-là politique dans lequel on évolue, cette lepénisation montante, grimpante des esprits qui commence à vraiment émerger dans la littérature. C'est très sensible dans le dernier livre de Laurent Mauvignier, Continuer, où il y a cette mise en scène d'un adolescent écorché vif qui est, disons, sensible aux thèses du Front National. Et donc là, il y a justement cette écriture de l'empathie pour mieux comprendre comment ce garçon se retrouve par ses blessures, par sa souffrance, à compenser en, disons, récupérant cette thèse-là. Voilà.
Michel Dufresne.
J'avoue que c'est un peu compliqué, parce qu'en même temps, moi, je vois ça de mon petit pays lointain. Et parfois, j'ai l'impression que ce sont les filtres de la communication et de la presse qui occultent certains éléments. Mais quand on parle néo-polar, pour revenir un peu à l'histoire du polar récent en France, on cite systématiquement Manchette, Fajardi, on oublie ADG qui a marqué, aujourd'hui on l'a oublié parce qu'effectivement, à ses funérailles, il y avait des anciens de l'EAS et Jean-Marie Le Pen, alors qu'à l'époque déjà, il développait des personnages qui étaient frustrés, un peu racistes par défaut, un peu nationalistes par accident, et en même temps ADG avait une excellente langue et tout, il était publié dans la série noire à côté des autres. Donc je pense que quasiment de façon permanente, c'était là. Et en même temps, on ne veut peut-être pas le voir non plus, parce qu'on met en avant d'autres mécanismes éditoriaux, d'autres types d'écrivains.
Parce qu'il y a des éditeurs, Michel Dufresne, qui pourraient considérer, par exemple, que certains ont une littérature un peu trop sulfureuse et sont réticents, en tout cas, à publier des livres. Il y a eu, par exemple, en 2013, alors une petite affaire autour du livre de Pierre Méraud. Pierre Méraud, écrivain installé, qui finit par publier, en tout cas, chez Flammarion, toute la noirceur du monde, après que son manuscrit a été accepté, puis refusé par plusieurs maisons d'édition, et qui racontait l'histoire d'un professeur professeur de lycée qui bascule dans l'extrême droite et dans l'extrême racisme surtout. Il peut y avoir des réticences du côté du monde de l'édition pour vous, Michel Dufresne ?
Ah, je pense que oui, je pense que c'est évident. À mon avis, vous pouvez vous permettre plein de choses si vous êtes bien ancré dans le modèle télécrivain, comme on dit toujours en blaguant, donc un auteur installé avec une médiatisation constante où on va pouvoir faire le buzz, récupérer le buzz et ainsi de suite. Mais à mon avis, il y a toute une série d'auteurs sur lesquels il y a une forme d'omerta ou qui se retrouvent chez des éditeurs étranges, enfin, je ne sais pas. Vu de Belgique, par exemple, il y a un cas qui m'intéresse, moi, c'est ce qui s'est passé avec Maurice Dantec, par exemple, ou alors actuellement avec Laurent Oberton.
Voilà, Laurent Oberton qui publie Guérilla Sharing, c'est quelque chose qui est très récent. Et alors, c'est vrai que la communication de son éditeur, en tout cas, consiste à dire, voilà, c'est un livre qui est totalement occulté par les médias, mais qui pourtant se vend extrêmement bien, notamment sur les sites de vente en ligne. Nicolas Mathieu, vous
souhaitez... L'intitulé de votre émission, c'est « La littérature, c'est-elle parler aux électeurs du FN ?» Tout à l'heure, vous disiez, Aurélie Adler, en fait, on parle à la place, on porte une voix. C'est ça l'objet d'un écrivain. Oberton, c'est un peu différent. Il réalise le fantasme que certains ont dans leur tête, certains électeurs du FN ont dans leur tête, c'est-à-dire une insurrection des patriotes. C'est encore autre chose, quoi. Je sais, il témoigne pas, et j'ai pas l'impression qu'il soit attentif aux signaux faibles qui émanent de la société ou à qui prennent le pouls de ce qui se passe dans la France périphérique. Il fantasme, mais au diapason de ces gens-là, c'est très différent.
Aurélie Adler.
Non, je pensais aussi au livre de Jérôme Leroy, Le Bloc, qui effectivement participe de ce fantasme-là de l'accession au pouvoir du parti du Front National. Et donc Jérôme Leroy lui défendait une écriture de l'empathie, mais qui flirte avec effectivement le fantasme de ces deux personnages d'extrême droite et dont une va prendre le pouvoir en fin de compte. Donc c'est vrai que.
Leroy étant infiniment plus critique que Oberton.
Voilà, et oui, il faut préciser.
S'agissant de Leroy, voilà, c'est vrai que. Les recensions qui avaient été faites de son roman Le Bloc, alors certaines disaient voilà, c'est quelque chose qui est pro-FN, mais d'autres disaient finalement, c'est peut-être le meilleur roman anti-Front National qui a pu être produit. Donc on voit bien aussi qu'on peut avoir des lectures différentes. Je vous avais coupé Michel Dufresne, je vous laisse peut-être terminer votre précédente intervention. Michel Dufresne, qu'on n'entend plus. Ah, on me fait signe. Alors, je l'avais coupé, mais on a en plus été coupé. Thierry Bestingel. Ce qui fait avoir des points communs avec Nicolas Mathieu ce soir, au-delà du fait que vous intéressez aussi donc à cette France un petit peu de la périphérie, à ce monde du travail, hein, puisque vous avez beaucoup écrit sur le monde de l'entreprise, c'est aussi le fait que vous avez un parcours professionnel qui n'est pas un parcours d'écrivain professionnel, si tant est qu'il en existe encore beaucoup. En tout cas, est-ce que le fait d'être ancré dans une réalité sociale, dans le monde du travail, c'est quelque chose qui vous paraît important aujourd'hui quand on fait de la littérature et qu'on a pour ambition notamment de documenter la société dans laquelle on vit.
Alors je ne sais pas si le fait d'avoir un travail, le fait d'avoir un travail, ça participe à une distance, donc à une distance qui est de toute façon nécessaire à tout écrivain. Alors on peut très bien avoir des écrivains professionnels qui sont capables d'enquêter aussi et puis de pouvoir réaliser une enquête ou sociologique ou particulièrement pertinente pour pouvoir illustrer leur sujet. Donc ça c'est ce qui me paraît important. Moi ce qui me paraît c'est surtout important, c'est d'essayer de comprendre un peu cet électorat ou du moins de comprendre l'espèce de microcosme dans lequel je vis et qui a évidemment beaucoup d'électeurs du Front National.
Et ça, vous avez fait deux exercices pour le comprendre, c'est-à-dire vous y êtes allé d'abord dans le cadre, je crois, du Libé des écrivains, du Libération des écrivains qui a lieu chaque année. Vous êtes allé à Braché, vous en avez produit une chronique et puis vous en avez fait aussi un livre. Est-ce que vous avez eu l'impression que par le travail littéraire, le travail sur les mots, sur la langue, vous compreniez mieux peut-être les personnages dont vous parliez?
Oui, de toute façon, effectivement, quand le Libé des écrivains m'a proposé un sujet, j'ai tout de suite pensé à ce sujet en or, parce que j'étais en train d'écrire d'abord sur mon livre Faux Nègre, et le personnage principal est un journaliste. Donc pour moi, c'était assez évident de me transposer à la place de ce personnage principal et d'être moi-même, de devenir moi-même journaliste. tout en sachant que, par contre, ce que je voudrais vraiment insister, c'est que si j'ai écrit ce livre-là, c'est pas forcément pour parler aux électeurs du Front National. D'ailleurs, à mon avis, il y a très peu de gens en Brachet qui ont dû le lire.
Quand vous dites à mon avis, vous ne savez pas finalement.
Je ne sais pas, mais bon, à mon avis, il y en a probablement relativement très peu, voilà, parce que c'est pas dans leurs habitudes. Voilà, c'est pas une population qui lit beaucoup, qui est éloignée des bibliothèques, donc je pense que très peu l'ont lu. En revanche, le seul électeur du Front National qui l'ait lu, c'est Bruno Gollnisch, donc qui avait fait une petite critique. Et heureusement pour moi, d'ailleurs, elle était très négative. Il a trouvé que j'avais un style en poulet, un peu, etc. Donc, ce qui m'a fait très plaisir, parce que j'aurais été très fâché, évidemment, s'il avait apprécié mon livre. Donc, effectivement, je voulais d'abord bien resituer d'abord, si je l'ai écrit, c'est aussi par conviction politique, c'est-à-dire que des convictions anti, évidemment, Marine Le Pen. Ça, je pense que ça me paraissait évident aussi. Et je pense que ça transparaît aussi dedans. En même temps, ce qui me paraît surtout important, c'est la place de la littérature par rapport à un essai. J'aurais très bien pu écrire un essai qui aurait eu comme titre « Pourquoi, dans ce petit village, on vote Front National ?» Mais il n'y a pas vraiment de réponse. Et c'est là que la fiction intervient et que le roman intervient, parce que le roman, il est là pour poser des questions, pas forcément pour avoir des réponses. Hein, on est un petit peu dans la distinction entre Platon et Aristote, quoi. Voilà, c'est donc pour reprendre un vieux débat rhétorique.
Michel Dufresne, qu'on a retrouvé à Bruxelles.
Oui, ce n'était pas de la censure, j'assure tout le monde. mais j'aime bien ce que Thierry Bastinger le dit en disant, voilà, c'est une population qui est loin des bibliothèques. Je vais venir avec un exemple très empirique par rapport à mon travail. Je collabore à une émission de télévision qui s'intitule « Livre à domicile », dont le principe est d'aller avec des auteurs et des critiques littéraires chez des lecteurs. Notre grande difficulté est d'organiser le casting et de trouver des lecteurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'impossibilité, alors qu'on est en sixième saison, à toucher des minorités. Alors, que ce soit des minorités entre guillemets ethniques, hein, je mets bien des guillemets, donc nous ne parvenons pas à avoir des lecteurs maghrébins, parce que la réponse, alors que je connais des lecteurs, est « on va se foutre de ma gueule si... » on sait que je lis. On n'arrive pas à avoir un manutentionnaire, par exemple, qui nous dit, non, quand j'aurai changé de boulot, peut-être, mais aujourd'hui, je vais être mal jugé. Et quand on évoque le fait, est-ce que la littérature parle aux électeurs du Front National, c'est d'abord, à qui la littérature parle-t-elle encore aujourd'hui? Parce que certes, on pose des questions, certes, on donne des voix à, mais est-ce qu'au final, on ne se pose pas des questions rien qu'à nous-mêmes et à une petite partie d'un lectorat qui est déjà prêt à s'interroger sur ce genre de problématiques.
Nicolas Mathieu, est-ce que les personnages de Aux animaux la guerre sont aussi des lecteurs de Nicolas Mathieu? Est-ce que vous avez eu, vous, peut-être justement des retours qui vous ont fait penser que effectivement vous vous adressiez aussi, en écrivant ce livre, à des gens qui allaient vous lire, quoi?
Oui, mais peu. Et en fait, quand j'entends Michel Dufresne parler, ça me fait penser à Annie Ernaux, justement. Et je me dis, effectivement, la culture, c'est quand même fait pour faire honte aux dominés. Et ces gens, ils n'osent pas inviter la télé chez eux pour voir leur livre François Zir ou leur... Enfin voilà, ils ont un rapport à la culture qui est compliqué, qui est difficile. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir des gens comme nous pour porter leur voix, pour parler à leur place. Il y a dans la règle du jeu, il y a cette fameuse phrase de Renoir que je cite toujours. Ce qui est terrible dans la vie, c'est que tout le monde a ses raisons. Et nous, le job, c'est vraiment de descendre au ras du sol pour raconter ça et les faire parler. Je sais qu'il y en a qui l'ont lu et qui ont eu un sentiment de familiarité extrême. Enfin, on parle de ce qu'on vit, quoi. Mais c'est peanuts, quoi.
Cette familiarité extrême, est-ce que vous la devez à la fois à votre parcours qui a été celui d'un garçon qui est né dans les Vosges, si ma mémoire est bonne, et puis qui a eu aussi un parcours professionnel fait en partie de précarité, puisque sur la quatrième de couverture de votre livre, on peut lire, mais je trouve ça intéressant par rapport au thème que vous traitez. Donc vous avez été étudiant, stagiaire, RMiste, en CDD, en contrat aidé et auto-entrepreneur, qui est peut-être le comble de la précarité aujourd'hui, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, ça permet d'avoir des connexions et de comprendre ce dont on parle, quoi.
Ça fait moins rêver que les parcours d'écrivains américains qui ont été GI, boxeurs et mécaniciens. Mais oui, c'est un peu ça. Et effectivement, comment on fait pour infuser notre travail avec du réel? Moi, c'est une vraie question. Longtemps, j'ai écrit des trucs assommants, des trucs chiants, des histoires d'amour qui se passaient dans des appartes à moulures, et je ne les connaissais pas, et j'en parlais n'importe comment. À un moment, je me suis dit, parle de ce que tu connais, effectivement. Et aujourd'hui, vous demandiez à mon camarade si ça comptait d'avoir un job dans la vraie vie, quoi. Oui, en tout cas, moi, ça me fait très peur de commencer à bosser hors sol, de nouveau. Cette semaine, j'étais dans la cafette au boulot, puis je discutais politique avec des collègues, et puis il y en a un qui me sort ça. Moi, j'aime bien Fillon parce qu'il adore le sport automobile. Enfin, où est-ce que je vais entendre ça si ce n'est au taf, justement?
Oui, Adler.
Oui, sur Fillon.
Pas forcément sur Fillon, mais en tout cas, on va dire sur l'intérêt d'être dans le monde du travail pour écrire sur ce monde-là.
Effectivement, je pense que ça, c'est une préoccupation partagée par de nombreux écrivains contemporains aujourd'hui. Alors, tous n'ont pas un travail à côté, comme c'est le cas de Nicolas Mathieu, mais il y a en tout cas une passion du réel et une passion du document. Donc, on trouve un modèle de forme littéraire aujourd'hui qui est celui de l'enquête et qui me semble révélateur de cette passion du document, d'être très proche des faits et donc précisément de sortir de chez soi, de sa table d'écrivain, pour aller au plus près de ce qui se passe et pour être très précis aussi dans ce qu'on rapporte. On parlait de témoigner, mais je crois que la question du témoignage, de l'enquête, sont des formes d'écriture aujourd'hui très, très largement répandues parce qu'elles participent de ce devoir de précision, d'une éthique finalement par rapport aux personnages dont on entend parler.
Et puis, il peut aussi y avoir peut-être des motivations qui sont plus liées au plaisir de l'écriture et à l'idée que c'est aussi ce monde-là une matière première extrêmement riche pour la fiction.
Bien sûr, ah bah oui, tout à fait. C'est une matière extrêmement riche pour la fiction dans la mesure où elle n'a pas encore forcément été documentée, où elle a été largement ignorée jusque-là. Enfin, oui, bien sûr, ça.
Michel Dufresne.
Moi, ça me semble évident, pour revenir aux auteurs américains, Nicolas Mathieu citait Pollock précédemment. Pollock a travaillé 40 ans comme ouvrier et a pu bénéficier d'un programme de rescolarisation. Et c'est seulement bien après ça qu'il commence à écrire. Anderson Smith, assistant social, Larry Foundation, médiateur social, Jax Miller, c'est en cure de désintox qu'elle commence à écrire. Frank Beal a bossé dans l'industrie, dans la sidérurgie. Et c'est pour ça que la chair des personnages qu'ils proposent actuellement dans la littérature américaine, c'est de la chair qu'ils connaissent. Ils ont le même sang que leurs personnages. Et c'est pour ça que ça nous fascine, nous aussi.
Thierry Bernstein-Gell.
Je partage complètement, effectivement. Il faut vraiment. Pour moi, c'est assez important de connaître. Et je me sens, je dis pas forcément en osmose avec les lecteurs du Front National, c'est pas ce que je veux dire, mais du moins avec la représentation populaire avec leur représentation populaire, voilà. J'habite effectivement dans un petit département, il y a 150 000 personnes, donc forcément je vais me reconnaître parmi ces 150 000 personnes et parmi aussi les habitants de ce petit village, forcément.
Alors j'ai lu tout à l'heure un extrait de Faux Nègre, pour être tout à fait équilibré, je voudrais en lire un, de Aux animaux la guerre, qui est donc votre roman, Nicolas Mathieu, et qui raconte le monde de l'usine, mais le monde de l'usine tel qu'il était autrefois. C'était ça l'usine, un monde de peine et de réconfort, un monde qui n'avait cessé de rapetisser d'ailleurs, passant de plus de 250 bons hommes à trois fois rien. Ça c'est l'usine en particulier qui est en train de dégraisser. Les gars se connaissaient tous depuis l'enfance ou quasiment. Certains ouvriers avaient vu leur père travailler là avant eux. D'autres passaient la main à leur fils. Par le passé, les patrons venaient vous cueillir à la sortie du collège, après le certif. Et il arrivait qu'on s'engouffre là-dedans jusqu'à la retraite. L'usine avait dévoré des générations complètes, survivant aux grèves, nourrissant les familles, défaisant les couples, esquintant les corps et les volontés, engloutissant les rêves des jeunes. Mais à tout prendre, les gars aimaient bien l'ambiance, tâchaient de faire leur boulot comme il faut. Leur vie se tenait en somme, bien supportable, des vies d'hommes. Si j'ai choisi cet extrait, c'est parce que je trouve que c'est un extrait d'un monde qui finalement est, si ce n'est disparu, en tout cas est en voie de disparition. Et je me disais finalement, est-ce que pour raconter aujourd'hui ce monde du travail, ce monde de la précarité, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage, plutôt que s'intéresser aux usines qui sont en train de disparaître, à la désindustrialisation, s'intéresser, je ne sais pas, moi, faire un roman sur l'ubérisation du monde, sur ces gens gens qui ont des petits boulots et qui sous-louent leur appartement pour essayer de combler leur fin de mois. Est-ce que ça pourrait être ça, la nouvelle façon, en tout cas, de documenter la société telle qu'elle existe aujourd'hui, Nicolas Mathieu?
C'est une excellente idée que je vais m'empresser de vous piquer. Mais après, aujourd'hui, le roman contemporain, vraiment, il y a toutes les strates du monde du travail qui sont traitées. Je pense à Stéphanie Dupéy qui a écrit un bouquin qui s'appelle Brillante, qui se passe dans un des grands groupes, Burnout et compagnie. Enfin, voilà, on essaye de. Mais est-ce que les damnés de la Terre aujourd'hui, c'est les auto-entrepreneurs et l'économie ubérisée? Oui.
Voilà ce que je veux dire. Voilà, c'est est-ce que le monde du travail, il n'est pas en dehors justement du monde un peu classique de l'entreprise, Thierry Binstingel?
Clairement, effectivement, le salariat a vécu. Et donc maintenant, on est plutôt dans un monde d'auto-entrepreneurs. Donc, ce qui est d'ailleurs une façon de cacher aussi, probablement, cette désindustrialisation qui arrive vraiment, qui est probablement beaucoup plus grave qu'on ne l'imagine, parce que voilà, les seules perspectives finalement, c'est de pouvoir trouver un espèce de petit travail d'auto-entrepreneur. Au moins on sort des chiffres du chômage, parce que c'est illusoire maintenant de retrouver un travail salarié, clairement.
Ce monde de l'après-salariat, on le retrouve dans le roman noir par exemple, Michel Dufresne?
On commence à le retrouver effectivement, mais je pense que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est de parler du déclassement au sens large, par exemple le déclassement suite au handicap. Je sais, Marin Le Dain vient de le faire, le déclassement suite au burn-out, le déclassement suite à une famille, suite à un divorce, enfin, et ainsi de suite. Mais dans le sens vraiment de déclassement de représentation sociale, de ce que ça a comme impact. Qu'est-ce qu'une mère célibataire aujourd'hui avec deux enfants qui ne peut plus payer un loyer, qui ne peut plus, et ainsi de suite. Et ça va au-delà de l'ubérisation.
De la même manière, Aurélie Adler, qu'on parle d'une littérature du travail, par exemple, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui parler d'une littérature du déclassement? Là aussi, je vous donne peut-être une idée pour de prochaines recherches.
Voilà, oui, parce que oui, une littérature du déclassement, sans doute, on pourrait penser de façon très large, hein, aussi bien dans les campagnes que dans les villes, aussi bien Virginie Despentes que Thierry Bessingel. Bon, voilà, il y a différentes pistes possibles pour une étude du déclassement, oui, je pense.
Faudrait pouvoir se barrer. Balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Je suis seul et transi. Il fait peur, mon pays. Vis ma vie de chômeur. Je ne suis pas au meilleur. Y'a plus rien qui me tient. C'est la crise. Toi t'es bien. Tu méprises mon refrain. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop.
Voilà une autre façon de documenter la France telle qu'elle est aujourd'hui, celle de 2016, c'est le projet Frère Animal, qui est un projet porté à la fois par des artistes venus du monde de la musique et de la littérature, et également du cinéma. Il y a Florent Marché, Arnaud Catherine, Valérie Loliot et Nicolas Martel. Ils sont en tournée en ce moment et ils livrent à travers ce livre-disque une chronique, voilà, de ce qu'est la France à la veille de la présidentielle. Là, c'est un extrait du titre Vie, ma vie. C'est important aussi, bien sûr, d'avoir d'autres formes artistiques pour rendre compte aussi, voilà, de cette réalité sociale, Thierry Binstingel. Et quand je parle de forme artistique, je parle aussi du poids des mots et de la force de la littérature, peut-être pour opposer certains mots à d'autres qui peuvent expliquer aussi le fait que la société se décompose d'une certaine manière.
En fait, ce qui manque, c'est vraiment une analyse très très pragmatique, on pourrait presque dire une analyse un peu structuraliste de tout le discours politique. Allez sur le site de Marine Le Pen, vous verrez toute une liste de mots-clés. Et en fait, quand vous regardez un discours de Marine Le Pen, tous les mots-clés figurent à l'intérieur des discours. Donc c'est très facile. Vous prenez un logiciel de recomposition de discours, vous y mettez toute une série de mots-clés, et c'est bon, vous avez votre discours, et vous pouvez comme ça les décliner à l'infini. Donc les mots, à la fois, perdent leur substance, mais il y a aussi certains mots qui sont typiques d'un électorat. L'islamisme, halal, etc., ça c'est typique de l'électorat de Marine Le Pen. Et donc il faut les utiliser si on veut convaincre un certain type d'électeur. Donc ce qui manque vraiment, c'est cette partie-là d'une analyse très fine du langage. langage et de la déconstruction d'un discours politique.
Et là-dedans, évidemment, les écrivains ont un rôle à jouer, justement, soit en se réappropriant certains mots, soit en utilisant d'autres pour faire des sortes de contre-feu. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Michel Dufresne, qui était en Belgique. Merci Aurélie Adler, je rappelle, Écrire le travail au XXIe siècle. C'est un ouvrage que vous avez co-dirigé aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Et puis, je vous recommande vraiment la lecture et de Aux animaux, La guerre, qui est en collection Babel. C'est le poche d'Actes Sud et c'est signé Nicolas Mathieu, et Faux-Nègre de Thierry Binstingel chez Fayard. Thierry Binstingel qui vient de publier, rappelez-moi, votre ouvrage sur Rimbaud.
Vie prolongée d'Arthur Rimbaud.
Voilà, merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Isolte Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean-Guy Lamège. Demain, ce sera la suite et fin de notre semaine spéciale avec le club du vendredi qui sera présenté par Mélanie Chalandon. Ce sera l'occasion de faire la synthèse de ce qui aura été dit tout au long de cette semaine.